Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Alors, programme de cette réunion, j'ai envie qu'on parle des gros fails qu'on a fait sur la saga Saw, puisque visiblement tout le monde s'en fout, alors qu'on a passé des heures à parler de Saw dans le bureau. Bordel, je pense que tout le monde nous prend pour des psychopathes, notamment toi, Déborah.
Ouais, non, franchement, le dossier sur la chronologie.
On en a entendu parler tellement longtemps.
Il y a un moment, j'étais vraiment genre en choc devant mon ordi en train d'essayer de faire la frise. Je crois que c'était encore pire que quand j'essayais de comprendre, tu sais, les deux Captain America dans Endgame.
Et toi Mathieu, est-ce que t'es surpris? Parce que franchement, il y avait tellement d'idées qu'on avait sur Saw, on pensait que les gens allaient être intéressés.
Ouais, je sais pas, on devait même faire un dossier plus long à la base qu'on a finalement annulé parce qu'on avait pas le temps, qu'on croulait sous des tas de trucs. Parce qu'il y avait le Dupontel aussi qui sortait, donc ça faisait un peu...
Deux salles, deux ambiances.
C'est vrai que je m'attendais à une plus gros enthousiasme, d'autant que le film fonctionne plutôt bien.
Bah ouais, c'est ça.
Donc c'est assez étonnant. En vidéo, c'est pas si étonnant parce que les vidéos qu'on fait sur les films d'horreur fonctionnent rarement bien. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'est un mystère total. Alors que des fois, sur le film, ça cartonne. Mais tous les papiers, ta critique notamment, je sais pas. Peut-être que on l'a sorti un peu trop tard parce qu'on l'a sorti le jour de la sortie, pensant naïvement que les gens allaient en salle, alors que vu que le film est sorti en VOD aux États-Unis, je crois que c'est le jour où nous on est allé en projo. Ce qui est quand même ironique.
À peu près pareil, ouais.
Ouais. Donc le truc était sur internet avant même qu'ils sortent en salle, malheureusement. Donc forcément, ça a dû aider ni la distribution, ni nos articles. Et toi, Geoffrey, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis surtout saoulé d'avoir autant regardé les sons, quoi. Je me suis retapé toute la saga pour rien, même pas pour la gloire ni le succès, certainement pas l'argent. Donc en fait, je me demande pourquoi, à part vous, peut-être qu'il a essayé de me motiver en disant quand même, il y a des trucs bien dans le Saw 43, Alinéa 2, il y a une scène vachement cool.
Je t'ai vu sourire à un moment. Si, à un moment, je t'ai vu sourire derrière ton ordi pendant que tu regardais les films.
Sur un saut, oui, mais c'est pas un sourire de bonne volonté, c'est un sourire d'exaspération, tu vois.
Après, c'est la saga, tu rigoles plus à en parler qu'à voir les films.
Oui.
C'est-à-dire que tu vois les films, tu fais oh ouais, non, mais quand même, et ensuite on en discute entre nous et on s'est bien marré quand même.
J'avoue qu'à la 12e discussion sur « Mais attends, dans Saw 3, est-ce que c'est Amanda derrière la commode ou est-ce que c'est un papier envoyé par Hoffman ?» Je commence à en avoir quand même ras-le-bol. Et donc, on a vu tous les trois Saw et je crois que Déborah, t'es la moins positive sur le film.
Ouais, genre, je pensais vraiment que, vu que c'est clairement le genre de film où j'ai énormément d'indulgence, au contraire, je serais une de celles qui aimerait le plus. Et c'est vrai que j'ai trouvé le film super sur tout l'aspect gore et totalement dégueulasse sur tout ce qui...
Tout ce qu'il y a à côté du gore.
Tout ce qu'il y a autour du gore, exactement.
Et toi, Mathieu, tu penses qu'on est aussi positif ou que tu l'es un peu moins que moi à cause de la question justement dont parle Déborah là ?
Bah ça, c'est vrai que ça explicite une question qui est dans la saga depuis quelques temps qui est assez intéressante. En fait, moi, ce qui me fascine avec Saw, au-delà de la qualité des films en eux-mêmes, c'est à quel point c'est une pure saga d'exploitation qui a survécu contre vents et marées au 10e opus en 2023 sur un sous-genre qu'on pensait mort et enterré depuis 10 ans. Et il continue à cartonner et ça me sidère. Et du coup, cette question un peu morale et la violence extrême du film qui est quand même hyper gore pour le coup. Il y a 2-3 pièges qui sont vraiment vraiment crades mais dans le sens bis du terme quoi. Où vraiment tu te regardes, tu fais non mais n'importe quoi.
Ah mais il y a des moments où on était tous les trois en train de rigoler dans la salle. Je sais pas si les autres rigolaient dans la salle.
C'est vraiment risible mais du coup c'est un peu marrant. Il va assez loin notamment à la fin avec l'emploi d'un certain personnage franchement, je pensais pas qu'un jour la saga irait aussi loin.
Mmh. Même moi, ça m'a choqué, franchement.
Ouais, non, mais du coup, tu vois vraiment
petite nature, vraiment.
Tu vois vraiment la franchise un peu comme quand moi, j'adore regarder le bis des années 70 italien comme un objet d'étude absolument fascinant, autant pour ce qu'il raconte que pour le film lui-même. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que Sodi, c'est assez intéressant par rapport à ça, même s'il y a quelques scènes gore qui. Excusez-moi, notamment je crois que c'est la première, enfin la scène, j'arrive pas.
Des intestins.
Non, c'est de la cuisse.
Ah, la cuisse.
Ah
qui est vraiment, bon, c'est n'importe quoi, mais ça fait plaisir de voir. En plus, les effets sont pratiques et vraiment dégueulasses. Un truc aussi
les
crade.
Les psychopathes, Mathieu a parlé. Ça fait plaisir.
Non, mais c'est vraiment méchant, quoi. C'est assez marrant.
Oui, puis le film vraiment, il est vraiment bipolaire, c'est-à-dire que il fonctionne super bien parce qu'il se veut un hommage et vraiment l'héritage des vieux sceaux. En plus, les pièges qui sont choisis, c'est clairement genre l'amputation, la craniotomie, le fait de se péter les articulations. Enfin, c'est
base.
Tout. Ouais. Ouais, voilà. Et mais d'un autre côté, c'est parce qu'il se veut un héritage du côté de la mythologie de John Kramer. Qui se rétame totalement. Enfin, il n'a pas réussi à trouver un entre-deux. Et je trouve ça tellement dommage que pour la même raison, il se foire d'un côté et il réussit presque admirablement de l'autre.
Et c'est quoi tes sauts préférés, toi, Déborah ?
Alors, bon, évidemment, je vais dire le premier, mais sinon, j'aime vraiment beaucoup d'amour premier degré la première trilogie. Genre les trois premiers films, je trouve que oui, ils se tiennent bien. Il y a vraiment quelque chose qui est développé, même si on verra au niveau après de la production que non, ça se tenait pas du tout dès le début. Mais je trouve vraiment que c'est une bonne trilogie. J'accepte encore le 4 et ensuite, même là, je me désolidarise.
Et les pires ? Ou le pire ?
Le pire, Spiral. Toujours. Voilà, Sodis, je le sauve pour tout le côté gore, effet pratique et tout ça, mais sinon, non, le pire, c'est Spiral.
Mmh. Et toi, Mathieu, meilleur pire ?
Bon, probablement le premier, meilleur, évidemment, mais... Qu'est-ce que Saw 1 sinon une sorte de petit produit de petit malin qui arrive au bon moment avec le bon style, on va dire. Enfin, c'est plus une sorte de bande démo qu'autre chose, ce film, ce qui le rend plutôt divertissant, mais franchement inutile, quoi. Enfin, franchement. Et les suites, j'avoue que j'aime plutôt bien le 3 pour le côté on pousse les potards du gore à un niveau rarement atteint pour une production mainstream de l'époque. Enfin, le film a quand même pris un moins de 18 ans en France.
Ah ouais.
Truc complètement inédit. Ouais, ouais, c'est.
Ça a pas été réévalué après. C'est encore aujourd'hui.
Ça, je ne sais plus. Mais il faut quand même avouer que le 2 est allé déjà un peu plus loin. Mais le 3e à l'époque, je pense que pareil, dans le grand public, on n'avait jamais vu ça. C'est dingue, il y a quand même des scènes hyper cruelles. Après l'attachement que j'ai pour la saga, c'est pour le côté un peu kitsch, quoi. Enfin, tu regardes ça forcément au second degré. Et
moi, non.
Faut avouer, pour certains effets gore, c'est pour ça que malgré sa stupidité abyssale, le 7 est peut-être un des plus divertissants, je trouve, notamment parce que 2-3 pièges hyper vénères, notamment celui dans le garage là.
Avec le skinhead.
Ouais, enfin, la réaction en chaîne qui est assez marrante. Et oui, Spiral, c'est nul à chier, parce que non seulement il y a tous les défauts des sauts, qui sont nombreux, mais en plus il se prend hyper au sérieux, donc c'est une cata, même si des fois ça lorgne un peu sur le nanar, voilà ce qui peut faire rire.
Ah bah, en revoyant la scène, parce que j'ai clairement pas eu la foi de regarder le film en entier, j'ai regardé sur YouTube scène de Spiral et j'ai vu la scène où Chris Rock est avec la capitaine dans le bureau et il hurle vraiment les répliques. Et c'est vraiment mais tellement nul, je comprends pas comment ils ont pu jouer ça et le jouer au premier degré tout en jouant de manière aussi kitsch, quoi. Et le fait qu'ils se prennent tellement au sérieux, effectivement, c'est vraiment le pire côté pour moi de la saga Saw, c'est les flics, les gens qui sont dans les commissariats, qui s'énervent, qui se disent « il faut aller dans la pièce là-bas, dans l'entrepôt, on s'en fout ». Il y a genre 15 personnages de flics interchangeables et là ils se disent « on va faire un film entier sur… » la vraie vie des flics et les problèmes des flics. Non mais non, absolument pas.
Ah, mais la direction d'acteur dans ce film, elle est incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Chris Rock, t'as l'impression il joue dans Titanic, il est à fond, il hurle de tout le temps. On a l'impression qu'il pense qu'il va avoir un Oscar pour ça, quoi. Et de l'autre côté, t'as Samuel L. Jackson. Il est là,
régime.
Il regarde son script en hors champ, il fait yeah yeah motherfucker, vous la gardez pour la bande d'annonce. C'est incroyable et ces deux personnes quand ils veulent faire un flashback ils leur mettent une casquette à l'envers sur la tête et ça j'ai trouvé quand même dans les années 2020 fallait oser, tu vois, fallait le faire.
C'est vrai que dans les films Saw, bon, le pouvoir de déduction fallait pas en avoir énormément pour comprendre un petit peu qui étaient les méchants vu que c'était clairement écrit sur leur gueule, mais le twist de Spiral c'est vraiment un des plus faibles et tu vois le truc venir au bout de 15 minutes de film.
Je trouve qu'on dirait le twist de Saw 6 5 6 Ou pareil, tu te dis,
ah, ça y est, ça commence.
Ça peut pas être la même personne que celle que je croyais au début parce que c'est trop évident. Et en fait, le twist, c'est que l'évidence que tu croyais ne plus être évidente devient l'évidence. À la fin, tu fais, oh, mais j'ai été piégé par le piège du piège.
Mais oui, mais c'est dans le 7 où justement il y a Gordon là, on sait pas pourquoi d'un coup.
Je parlais de Scream 6.
Ah, Scream 6.
La débilité des twists de cinéma.
Qu'est-ce que si maintenant on comprend les franchises, ça va pas le faire.
Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un peu une similarité avec Scream 6 où au début ils te présentent des personnages de façon tellement suspecte que tu te dis non mais en fait c'est tellement suspect que c'est forcément une fausse piste et en fait même pas.
T'arrives à ce degré de connerie du cinéma qu'en fait il a passé l'étape de l'évidence qui est un faux piège, en fait maintenant c'est vraiment pas un piège.
Ouais, c'est ça, c'est le ça se mord la queue quoi, ça revient.
Et comme on parlait de ce qui définit la saga Saw, et tu disais Mathieu qu'à l'origine c'est quand même c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, c'est vraiment un petit coup de génie, c'est un truc qui est sorti qui a été fait par deux mecs qui sortaient d'une école de cinéma en Australie qui se sont dit on veut faire un film, on veut apparaître sur les radars, on n'a pas de thunes, du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire sans avoir de thunes ? On a mis Robert Rodriguez, on a mis Sam Raimi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh ben, on fait un petit truc avec deux mecs, une pièce, quelques milliers de dollars de budget, et c'est devenu un truc hallucinant.
Ouais, c'est ça, c'est James Wan et Leigh Whannell qui écrivent ce script, et ils le proposent en Australie, et ça fonctionne pas, et finalement ils arrivent à plus ou moins le faire autre part, mais pour ça ils font un court-métrage d'une dizaine de minutes pour prouver leur concept, leur style, etc. Et finalement ça finit par être fait pour rien du tout, c'est vraiment un défi à tous les étages qui est franchement relevé plutôt haut la main, hein. C'est amusant comment ils ont compensé avec une mise en scène qui aujourd'hui est très daté leur manque de moyens, parce que je crois qu'ils, je sais plus c'est quoi le budget exact, mais c'est
moins
d'un million.
Alors je crois qu'officiellement c'était en réalité 700 000 dollars, les vraiment le budget pour faire le film et pas des trucs de post-prod et tout ça, qu'ils ont eu 18 jours de tournage, je crois, c'était vraiment
ça.
Tout petit.
Mais même eux, dans les interviews qu'ils ont donné après, ils disaient qu'ils avaient pas tellement de vues sur le budget et qu'en gros on leur disait juste qu'ils pouvaient faire, pouvaient pas faire, et en fait ils avaient même pas vraiment idée de combien le film était en train de leur coûter.
Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. Si vous l'aimez, ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
Même James Wan dit clairement c'est pas le film que je voulais faire.
Oui.
Ça a défini mon style, mais en fait quand je le revois c'est pas le film que je voulais faire, et à chaque fois qu'il y a un insert sur une photo, une caméra de surveillance ou des coupures de journaux, en fait c'est pas que je voulais, c'est qu'on n'avait pas le choix. Il manquait des trucs de tous les côtés, ils l'ont rafistolé au montage et il disait mais en fait en gros on filmait les répétitions tellement on était à l'arrache quoi. Je trouve ça assez génial.
En fait on a lu la même interview, c'est celle de The AV Club où justement il disait oui tout le monde était là, c'est un nouveau style de réalisation et de montage expérimental, alors que non, c'est de la débrouille totale parce qu'ils étaient fauchés et que bah il fallait bien coudre les scènes du film comme ils pouvaient.
Il le dit aussi dans le making of officiel. En plus alors James Wan a des 2000 avec sa coupe de cheveux, on dirait il fait de la tectonique le mec.
Mais oui, il joue très bien la tête dont tu parles.
Et vraiment il se dit mais on était coincés en salle de montage, et là en fait ils ont passé en revue les projection style et ils se sont dit bon on va utiliser ça. Ou alors la caméra de surveillance qui devait être un effet de style hyper anecdotique, et finalement il leur manquait des raccords et juste il y a des moments il y a des caméras de surveillance parce que c'est la seule qui tournait quelque chose, du coup ils l'ont utilisé dans le montage final. Vraiment le truc se tient à rien quoi, c'est fait de briques et de broc. Ils l'ont tourné en 18 jours dans une ancienne usine désaffectée qu'ils ont complètement refait. Alors toutes les scènes sont tournées dedans, y compris la poursuite en bagnole où c'est juste une voiture dans un hangar noir filmé n'importe comment. les commissariats, tout a été construit sur place.
Mais c'est ça que moi j'aime bien dans le premier Saw, parce que je suis vraiment pas attaché à la saga, il y en a aucun que je revois avec plaisir, je m'en fous en fait dans l'absolu, mais la magie de ce type de premier film fait avec des bouts de ficelle, des mecs qui sortent d'une école de cinéma, et quand tu vois à quel point ça se tient avec juste vraiment leur envie de faire des films. Et ce qui est hyper touchant, c'est qu'ils disent que, alors déjà, quand ils ont fait l'école de cinéma ensemble en Australie, qui n'était pas la plus grande école de l'Australie, mais la deuxième, et qu'ils n'ont pas tenté la plus luxueuse en se disant, en fait, soit on ne croyait pas en nous, soit on n'avait pas envie d'y aller. On a été dans cette école de seconde zone, où c'est très arty. Ils disaient, on nous montrait les projections, c'était des gens qui filmaient les trucs super abstraits, du genre un vagin projeté sur un drap porté par quelqu'un, et genre tout le monde applaudissait. Et James Wan arrive avec un truc qui s'appelle Zombie Apocalypse, le truc qui n'a rien à voir avec l'ambiance dans l'école. Et Leigh Whannell se dit, mais qui a fait ça ? Moi aussi, j'adore les zombies, j'adore l'apocalypse et tout. Ils sont devenus potes comme ça. Et quand ils ont été aux États-Unis, ils ont proposé le scénario à plein de gens, notamment DreamWorks, qui a failli le faire. DreamWorks était OK. Et Leigh Whannell ou James Wan dit, En gros, c'était un peu le rêve quand tu commences, quand tu veux vendre ton scénario. Mais on s'est dit, en fait, s'ils font le film, ça va être quelque chose de complètement différent. Il va y avoir Michael Douglas, Josh Hartnett. Il dit, ça va être un truc genre une production Michael Bay. Il s'est dit, en fait, ça va être un peu comme Massacre à tronçonneuse, le remake. Ça va être un truc qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, ils ont préféré le faire avec peu d'argent et le faire avec vraiment les limites de leurs ambitions de l'époque.
D'ailleurs, on dit souvent du premier, par comparaison avec les autres, qu'il verse beaucoup moins dans le gore frontal, dans le sadisme et tout, ce qui est vrai, bien sûr. Ça ressemble plus à un thriller qui ressemble beaucoup à Seven, hein, évidemment. Mais le fait est que si c'est aussi peu gore et aussi peu généreux en termes de scènes vraiment cruelles, quoi, c'est parce qu'ils n'avaient pas de thunes, ils n'avaient pas de quoi faire les effets en eux-mêmes. Alors, il y a plein de petits trucs et astuces qu'ils ont trouvés pour faire les différentes scènes quand même un peu crades qu'on voit. Notamment la scène avec le mec dans les barbelés, les genres de flash de photos, c'est des production style, comme on disait. Et je pense que le court-métrage témoigne quand même du fait qu'ils voulaient mettre le concept de piège au cœur de ce qu'ils voulaient faire, parce que ce court-métrage raconte juste l'histoire du piège à ours inversé, là, le truc qui t'ouvre la tête en deux. Donc vraiment c'était le cœur du projet, enfin en tout cas leur argument pour le faire produire, c'était ces pièges là sauf qu'ils n'avaient pas forcément les moyens pour les rendre hyper gore, ni même en fait pour les faire tout seul sans faire des effets de style qui t'éclatent la rétine pour te faire oublier que c'est pas facile.
Oui, mais même James Wan l'a dit plusieurs fois que ce qu'il y avait au cœur du premier Saw, c'était le mystère, c'était de savoir pourquoi et qui avait foutu ces deux mecs-là dans cette pièce, et c'était pas vraiment le côté gore qui, après, s'est plus affirmé dans les autres films de la franchise.
Oui, parce que l'idée initiale, il me semble, c'était donc eux deux, Lee Wanell et James Wan, se pitchaient plein de trucs, et ils racontent qu'en fait, ils faisaient que de se refuser les idées, qu'ils étaient assez durs l'un avec l'autre, jusqu'au moment où James Wan a dit « J'ai une idée, c'est deux mecs qui se réveillent dans une pièce avec un cadavre, il y a un gun et il y a un magnétophone, et je sais comment ça finit, je sais qu'il y a un twist, et voilà. »
Mais il n'y a pas le milieu.
Voilà, et c'est trop drôle, c'est Lee Wanell qui a dit ok, il a réfléchi, il a trouvé le titre Saw, a imaginé tout ce qu'il y a entre les deux. Et il y a un autre truc drôle d'ailleurs, c'est que James Wan raconte que quand ils pitchaient leurs idées, il y avait trois idées sur lesquelles ils s'étaient arrêtés. La première, c'était l'idée d'un film sur une projection astrale. Alors je me suis dit, ça ressemble beaucoup à Insidious, il me semble.
Absolument.
La deuxième, c'était un mec qui se réveille le matin avec des griffures, des traces sur lui et qui se dit, ok, il se passe des trucs bizarres pendant la nuit, je vais placer des caméras de surveillance, ce qui ressemble beaucoup à Paranormal Activity avant que ça arrive. Et le troisième, c'était donc Saw. Donc c'est marrant parce que leurs trois idées, en fait, c'était trois énormes coups d'un peu de génie, quoi, en tout cas d'un point de vue business.
Voilà, James Wan, hein, le roi absolu de comprendre les grandes modes du cinéma d'horreur à venir. Enfin, il a littéralement lancé toutes les grosses franchises d'horreur qui fonctionnent aujourd'hui. C'est quand même impressionnant, quoi.
Ouais, parce qu'après Saw, il a fait Dead Silence chez Twisted Pictures, aussi le même studio. Après, il a fait Insidious. Et après, Fast and Furious, Aquaman. Il y a eu
Et Conjuring.
Malignante.
Qui aurait dû lancer une grande saga. Ça aurait été sa plus grande œuvre.
Peut-être qu'un jour, ça arrivera.
On peut rêver.
Mais c'est vrai que Saw est devenu une saga, mais de base, ça aurait pu juste être un petit truc de bac à DTV, parce que normalement, quand il était à Sundance, Lionsgate, quand ils ont acheté les droits de distribution, eux, ils partaient plutôt sur un direct ou DVD, avant de voir que il y avait quand même un certain engouement et un attrait chez le public de Sundance, où ils se disent, peut-être que franchement, ça mériterait une sortie en salle. Et depuis, tous les films Saw sont sortis au cinéma.
Ouais, ils ont eu du pif pour Sundance, parce qu'ils l'ont projeté en Midnight Screening, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc, en vrai, mine de rien, c'est parfait pour ce type de séance. Ils racontent d'ailleurs qu'ils se sont... ils ont droppé pour rendre un cut pour le soumettre à Sundance, et que quand il a été accepté, ils étaient fous, mais qu'en même temps ils se sont rendu compte qu'ils allaient devoir redropper encore pour créer un final cut pour le projeter à Sundance. Final cut qui d'ailleurs a été censuré pour sortir en salle, parce que s'il était sorti directement en vidéo, ils auraient pas eu à couper.
Ouais.
Sauf qu'il a pris un NC-17 de la MPA en sortant en salle, donc le comité de classification, et ils ont dû couper pour arriver à un R qui va devenir un peu une marque de fabrique de la saga.
En fait, je me dis, ça devait être tellement bien d'être à Sundance à ce moment-là et de découvrir la franchise et de découvrir le twist et tout, parce que moi je pense que c'est un de mes plus gros regrets, c'est que Saw, ça fait clairement partie de mes premiers films d'horreur que j'ai regardé, mais quand j'ai regardé le premier, je connaissais déjà le twist.
Ah.
Et j'ai jamais eu ce truc de voir John Kramer se relever, d'être complètement dingue. Alors oui, la scène, elle me faisait quelque chose, j'aurais été complètement folle. Mais c'est vrai que ça doit être mon gros regret de pas avoir vécu le twist et le choc comme ils ont dû le vivre à Sundance.
Écoute, on a tous des grands regrets dans la vie, hein. Je suis ravi de savoir que c'est aussi grave que ça les tiens.
C'est vrai que la projet de Sundance, il y a un côté un peu j'y étais. Je pense que ouais. Si tu l'as faite, ça fait partie de ces quelques séances de ciné, un peu comme la projection du Argento à Cannes, là, tu sais. Les gens qui y étaient, ils ont dit « Ouais, j'y suis ». Tu sais, c'est un peu comme le Alive 2007 de Daft Punk. Il y a plus de gens qui proclament l'avoir vu que de possibilités que de gens l'aient vu, tu sais.
Moi, j'allais dire Southland Tales projeté à Cannes, mais chacun notre
possible,
truc.
Possible, possible.
Et ce qui est drôle aussi, c'est que je regardais donc Twisted Pictures qui est derrière tous ces films depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Bah pas grand chose, à part Dead Silence. Les autres, j'ai pas du tout vu, je sais même pas ce que c'est. C'est des sombres films d'horreur qui sont sortis en DTV, non ?
Ouais, du DTV, quoi.
Ouais, juste Catacombe, là, qui me vient en tête. Et encore,
ouais, Catacombe, ouais.
Ah, c'est eux ?
Ouais.
Ah.
Oui, mais c'est pas la même version, si.
C'est pas d'accord.
Non, c'est si. Pas le dernier, là, qui est sorti dans
c'est
les années.
C'est pas la version
2010.
française.
Qui était
quoi.
Amusante, là, non ?
Ouais.
Avec l'affiche où c'est la Tour Eiffel,
ouais,
tout
ouais.
Rouge. Non,
c'est un autre.
C'est comme les films Escape Game, Escape Room, il y en a 14, tu parles jamais du même.
Ouais, c'est ça.
Et c'est marrant parce que Twisted Pictures a été fondé, il me semble, après le succès de Saw. Parce que c'était un film fait par Evolution Entertainment. Et quand Saw 1 a cartonné, Lionsgate a signé un deal avec eux et ils ont créé Twisted Pictures pour faire des films d'horreur.
Avec, non, j'allais dire Mark Hoffman, mais Greg Hoffman.
Mais c'en a un autre. Oui, exactement. Et donc c'est vraiment une boîte de prod qui a été créée, non pas pour le film, mais grâce au succès du film. Et qui aujourd'hui fait quasiment que ça. Il y a tous les Saw et il n'y a quasiment rien d'autre.
C'est besoin d'une structure probablement pour... porter sur ses épaules la saga à venir, quoi.
Mais tu sais, c'est étonnant parce que je me disais, on dirait un peu Dimension Film pour Miramax, mais qui ont fait plein d'autres trucs à part Scream.
Oui,
et là, en fait, ils ont fait quasiment que Saw. Bon, après, c'est un bon business, hein, j'imagine, pour eux, mais c'est amusant qu'ils aient pas un peu, tu sais, qu'ils soient pas enfilés là-dedans en disant, bah vas-y, faites d'autres films d'horreur. En fait, c'est venu la boîte
c'est
de prod.
C'est vrai que c'est un peu l'histoire de base de ces boîtes de prod qui viennent à en faire plein d'autres films. Je pense à New Line aussi, par exemple, qui a pas été, je pense, pas créé spécifiquement pour Freddy, mais qui a gagné toute sa notoriété de ce film-là, et qui ensuite, bon voilà, produit Seigneur des Anneaux, etc. Là où Twisted Pictures se sont vraiment fermés dans ce truc-là, et ils n'ont jamais eu de succès à côté. Alors, il y a eu des essais de récupération d'autres franchises, de ce que j'ai entendu.
Oui, parce qu'à un moment, ils avaient racheté de faire Massacre à la tronçonneuse, ça n'a rien donné.
Ils voulaient faire une trilogie avec James Wan qui réalise le premier en 3D.
Et bon, on a parlé du premier Saw qui est donc un peu un miracle, un coup de génie, peu importe ce qu'on pense du film. Et ce qui est drôle, c'est qu'assez rapidement, on voit un peu les dérive du business, puisqu'il me semble que Saw 2, j'hallucine pas, hein, ça devait être un autre film qu'ils ont récupéré et ils ont rafistolé ça pour en faire un Saw.
Ouais, c'est ça. Comme ça arrive de temps en temps sur les grosses franchises comme ça, hein, on en reparlait, mais récemment, l'autre exemple, qui me vient en tête, c'est pour Hellraiser, où je crois c'est les opus 6 et 7, celui qui s'appelle Deader, où pareil, c'était un spec script. Lambda de thriller et ils ont dit bon bah on va caser 3-4 cénobites dans le coin et ça va le faire, on les tourne à la suite en Bulgarie et c'est bon. Et bah c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, c'est à dire qu'ils ont eu ce script de Darren Lynn Boozman qui va donc devenir un habitué de la franchise pour le pire et pour le pire. Et
mais non, attends, il a fait lesquels?
Le 2, le Spiral.
Mais il a fait le 2 et le 3, non?
C'est lui
non.
qui a fait le 3 aussi?
Ouais, oui, c'est ça, il voulait pas, mais au final si, il est revenu, mais il voulait pas de base, mais voilà. Oui,
donc il a fait le pire et quelques-uns des moins pires.
Ouais. Et après,
il a fait Jigsaw, non aussi. Il en a fait un des
derniers.
Non, il est revenu pour Spiral parce que Chris Rock l'a appelé en disant oh, vas-y, j'ai envie de que tu viennes. Et il a dit ok.
C'est encore pire. Mais après, franchement, comment vouloir à Lionsgate? Je veux dire, le premier week-end de Saw, il avait des gens qui cassaient 18 millions de dollars.
Pour un truc qui avait coûté 1 ou 2 millions, c'est ça, non?
Ouais, voilà, 1,2 million, je crois, en tout.
Non, mais c'est
allez, on est à 2 millions avec l'inflation.
À l'époque, c'était pas le truc le plus rentable. Il a dû être détrôné par Paranormal Activity après, mais il a pas battu de Blair Witch en termes de rentabilité par rapport au budget. Je me rappelle plus.
Bon, en tout cas, c'était dans la même famille des trucs qui cartonnent à un niveau absolument hallucinant. Et au final, il a fait combien au box-office?
Le premier film, au final, il a fait 100 millions au box-office mondial et 56 millions aux États-Unis. Donc évidemment que Lionsgate s'est dit on va commander une suite. Mais sauf que James Wan et Leigh Whannell, eux, ils étaient en train de travailler sur Dead Silence. Et c'est là que, comme tu disais, l'histoire du film qui a été transformé, Darren Lynn Boozman, ça faisait un moment qu'il avait écrit un scénario et qu'il courait les boîtes de prod et que personne ne voulait son film parce que c'était trop gore. Et on lui
et pour
disait,
cause.
C'est un peu du sous-saut, quoi. Parce qu'en fait, c'était juste des personnes qui étaient enfermées dans une maison abandonnée et piégées, voilà, et torturées, tout ça, tout ça. Au final, un des producteurs a reçu le script et s'est dit « Eh, mais tiens, ça pourrait faire un bon départ de Saw 2. Il faudrait juste essayer de le rafistoler un peu pour que ça rentre un peu dans la mythologie. » Du coup, Leigh Whannell, après qu'il ait fini de travailler sur Dead Silence, il est revenu, il a un peu modifié le truc et c'est devenu Saw 2.
C'est incroyable.
C'est
dès le deuxième, tu tombes vraiment dans le truc de l'exploitation basique. C'est genre genre tu prends un truc qui traîne dans un tiroir, tu dis vas-y on rajoute Jigsaw, c'est quasiment plus le film. Tu dis bah il y a d'un côté le film Jigsaw avec le flic et Jigsaw qui est pseudo arrêté, et de l'autre t'as le film donc qui n'a rien à voir avec Saw et des gens enfermés avec des pièges quoi. C'est littéralement ils ont même pas essayé de les mixer quoi. C'est vraiment les deux.
C'est là que ça devient fascinant, ça devient, c'est déjà une logique de DTV. Je parlais de Hellraiser, mais au moment où ils commencent à faire ça, ils sont déjà dans la logique DTV. C'est pour pondre des films à la suite, garder les droits, continuer à brasser de la thune. Alors que là, on est qu'au deuxième. Et déjà, ils sont dans cette logique-là. Et de façon absolument incroyable, ils vont rester un peu dans ce côté un peu profiteur, quoi. Et ce pendant 10 films et combien 25 ans maintenant.
Puis c'est vraiment la logique de, à la fin de ton film, si ton méchant ne meurt pas ou quoi, si t'as l'impression que tu peux avoir une porte ouverte, bon, même si là, à la fin, le méchant, carrément, il ferme la porte, donc c'est quand même assez fort comme symbole. Mais il y a ce truc du bon bah le méchant est pas mort, on peut faire une suite. Et bah allons-y.
De toute façon, quand tu regardes la cadence, c'est hallucinant. Donc il y a eu 10 films, puisque le 10e sort en 2023. Mais les 7 premiers films, c'était un film par an pour Halloween. Donc t'imagines à quel rythme tu peux faire des films comme ça. Et d'ailleurs, le réal du 4, du 5, bon peu importe, un des réals de la saga raconte que c'était toujours la même chose. C'était que avant Noël, le scénario pas du tout fini, mais pseudo-fini, était rendu. Et en fait, ils avaient genre une semaine pour faire le pitch, un mois pour l'écrire. Et après, le truc était réécrit constamment jusqu'à la post-production, il rafistolait, il rajoutait, il changeait et tout. En fait, c'était vraiment un truc fait de briques et de broc.
Ouais, il disait aussi que, je crois que c'est un autre scénariste qui a dit ça plutôt pour la production du 6 ou du 7, qu'il commence à bosser sur le film avant même que le précédent soit techniquement conclu. Donc en fait, ils ne connaissent même pas la fin du précédent, tellement il faut les enchaîner. Donc le truc s'arrange en temps réel un peu, ce qui explique, je pense, le côté complètement bordélique de la narration de cette saga. Et c'est vraiment le rythme est industriel.
Pourtant, c'est quand tu regardes, je sais pas, par exemple, le pont entre le 3 et le 4, je trouve que quand même il y a une transition logique. T'as presque l'impression que tout était réfléchi, que tout était prévu.
C'est quand John Kramer a avalé la cassette.
Et
tu dis
ça
à la fin du 3, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Et dans le 4,
Et voilà, tout prend. Et donc t'as vraiment l'impression que c'est un truc de gros malin avec effectivement qu'ils ont imaginé leur franchise sur 10 ans, qu'ils ont tiré des grands fils avec la chronologie, alors qu'en fait c'est que du rafistolage.
Sachant que je crois qu'à partir du 3-4, ils commençaient pas mal à dire en interview, à chaque film il y avait trop de matière, c'était trop riche, donc il y a des choses qu'on repousse au film d'après, et je crois que peut-être que l'autopsie de Saw 4 était la fin de Saw 3 à l'origine.
Moi je trouve que ça fonctionne mieux en ouverture du 4.
Bah c'est plus amusant, en plus ça donne un twist.
Donc... Et puis voilà, c'est pas la même temporalité.
Le meilleur twist de la saga, c'est pas en même temps. Et donc ça fait 10 films en 9 ans, plus d'un milliard au box-office, donc c'est quand même sacrément stable. Je sais pas s'il y a d'autres sagas qui cartonnent à ce point-là, surtout que l'investissement au mieux, au plus, c'était quoi, 10-15 millions de budget, 20 millions pour Spiral, non?
Le plus gros c'est le Saw 3D, le 7 qui est à 20 millions, mais c'est quand même un énorme budget par rapport au précédent qui dépasse rarement les 10-11 millions quand même.
Oui, puis on comprend là pourquoi c'est plus cher que... Enfin, on comprend en théorie pourquoi il est plus cher que les autres,
il
la 3D et tout ça.
Du sein qui vole en 3D dans le piège. Ouais.
J'avais plutôt les tripes qu'on te balance au visage à un moment.
Puis en plus, le 2, il est quand même déjà qu'à 4 millions et il a fait combien en box-office déjà?
Le 2, alors attends...
4 millions, c'est 4 fois plus que le premier.
Ouais, le 2 a coûté 4 millions et 147 millions au box-office mondial, 87 millions aux États-Unis.
Alors que le 2 est moche, c'est un des plus dégueulasses de la saga. Je trouve vraiment tout ce qu'il y a, la photo dans cette baraque de merde là, c'est
la
tellement
photo de la
moche.
La saga
quoi.
En règle générale.
Non mais là, vraiment, cette espèce de jaune pisse, vraiment, c'est en plus avec les acteurs cheapos.
Ah, ça explique la déco de ton bureau. L'intérieur de ta tasse après 7 cafés.
Et ce que je trouve ouf, c'est que quand on arrive à Spiral, qui est censé être un reboot, pour le coup, Spiral se vautre parce qu'il coûte une vingtaine de millions, fait même pas 50 millions au box-office, donc c'est ridicule par rapport aux autres. Mais la saga n'est pas morte pour autant, puisque ça revient avec Saw 10, qui fait des chiffres à peu près normaux pour la saga, donc c'est vraiment une saga increvable. C'est ça que je trouve
dingue. De toute façon, un film Saw peut se casser la gueule, il coûte de base tellement peu cher. Que bon, bah, c'est comme les Paranormal Activity, il y en a un qui peut être vraiment décevant, bah, ça continue.
Ne le dis pas trop fort, ne le dis pas trop.
Tant que tu peux grappiller 5 millions dans la poche, bon, ça va, on continue.
Ouais, c'est vrai qu'on comparait ça avec Conjuring la dernière fois quand on parlait, en disant que c'était aussi des films qui avaient un côté valeur facile, enfin béquille même pour certains studios. Lionsgate dans ce cas-là et Warner dans le cas de Conjuring, dans le sens où c'est des films qui coûtent pas très cher et qui leur rapportent forcément, parce que comme tu dis, forcément ils coûtent pas cher en fait. Mais on est quand même pas dans le même ordre d'idée. Hein. Les films du Conjuring verse ils coûtent quoi, dans les 15-20 millions de dollars?
Il y a les
Annabelle
qui coûtent dans des budgets à la
Ouais,
saut,
c'est vrai que début, ouais.
Et
vrai.
Ça a plus l'air, attention, ça m'arrache la gueule de le dire, ça ressemble plus à du cinéma que certains sauts. Et tu sens que les sauts, ils entretiennent, et ça se voit dans Saw 10, c'est que ils arrivent à la première partie de Saw 10, essayent de donner un effet fait une mise en scène un peu plus cinéma de qualité. Et il y a un moment, ils reviennent à des accélérés, des ralentis et des flashs parce que ça fait partie de l'identité de la saga.
Quand tu dis cinéma de qualité, tu parles d'un plan qui dure plus de 14
exactement.
Secondes.
Exactement. Mmh, avec une musique qui est composée par quelqu'un qui fait pas du du du.
Il est trop bien, puis... arrête, il est trop bien. Ah ouais, ouais.
Au bout du 10e film, t'as envie de crever, quoi. C'est toujours le même morceau. Mais c'est marrant, y a, j'ai revu le making-of du coup du premier film, bon, je l'ai déjà dit, et il y a un plan dans le making-of qui m'a fait exploser de rire. C'est un plan behind the stage, du coup, de la séquence du coup du piège à ours inversé. Pourquoi j'ai toujours piège à loup, mon dieu? Et en fait, il y a le rail de travelling qui est en rond autour d'elle, mais vraiment un mini rond, quoi, qui fait à peine la taille de cette table. Et du coup, tu vois dans le rail la volonté de lui tourner 17 fois autour.
Ah, mais ce moment-là, dans le film, avec la caméra qui tourne accéléré, c'est tellement mauvais, tellement laid. Mais
moi,
le pire, c'est vraiment dans le 2. Le pire, c'est vraiment dans le 2, le piège d'intro, parce que comme tu dis, dans le premier, bah. C'est des effets de mise en scène qui servent surtout à cacher la misère. Oui. Alors que dans le 2, ils ont déjà un peu plus de thunes. Et l'ouverture du 2...
C'est quoi déjà l'ouverture du 2
Le gars avec l'œil.
Ouais, ah, c'est oui. Le genre de vierge de Nuremberg sur la tête, là. Mmh. Et vraiment, j'ai essayé de le mettre au ralenti pour compter les, compter les tours. Ce que je m'imagine. Tu sais, ils l'ont accéléré. Mais je m'imagine le mec derrière la caméra fait allez, allez, un tour et deux tours et trois tours. Mais j'ai même pas réussi à compter tellement il y en a. Putain, mais le truc. C'est incroyable.
Et Saw, c'est quoi aussi? C'est une saga de twist. On en parlait. C'est un peu. Je pense que si tu demandes aux gens comment tu définis Saw, à part les pièges et la violence, c'est quand même le fait qu'il y ait des twists. Et d'ailleurs, comme on disait, c'est comme ça que James Wan a vendu son truc au début. Il avait pas l'idée des pièges. Il avait l'idée des gens enfermés dans une pièce et un twist, donc le cadavre au milieu, c'est pas un cadavre, c'est John Kramer, c'est le mec qui en fait tirait les ficelles et en fait il était pas mort, il se lève, il ferme la porte et game over. C'est quoi les meilleurs et les pires twists de cette saga absolument fabuleuse? Parce que franchement, j'arriverai même pas à en nommer 10, alors que je pense qu'il y en a 35 dans la saga, mais je m'y perds tellement facilement.
En vrai, moi je reste sur, bon, évidemment, le tout premier avec voilà John Kramer, le cadavre il se relève et tout ça, mais dans le 2 et 3, le fait que oui, c'est exactement le même twist, c'est-à-dire que la temporalité, en fait, c'est pas ce qu'on croit depuis le début, on a été piégé. En fait, vraiment, j'ai tellement une sympathie pour cette franchise, parce que quand je la regardais et que j'étais super jeune et quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bête, j'avais l'impression que, oh là là, mais en fait, la saga et les films, ils me prennent moi aussi au piège. Oh, mais c'est trop malin et tout. Et en fait, l'impression que c'est la saga de petits malins, le truc où il faut démêler les fils, ou peut-être que tu comprends des trucs que les autres n'avaient pas compris et tout. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, c'est très, très, très bancal. Mais sur le coup, moi, j'étais tellement impressionnée par cette maîtrise narrative de, oh, mais en fait, le film, il a tout fait pour nous faire croire dans le montage que ça se passait en même temps, et en fait, non, et tout. Enfin, moi, c'est vraiment ce démêler les fils, et en fait, c'est pas la même temporalité, j'avoue, ça m'avait beaucoup plu.
Bon, je dois dire que c'est parmi les plus amusants de la saga, de voir que le fils du flic était à côté de lui dans le coffre
et tout. Attendre.
C'est amusant, ça c'est vraiment l'ironie ultime
ouais.
De...
Le twist du 2 est rigolo.
Ouais.
Après c'est vrai qu'en les revoyant, comment dire, les twists sont quand même facilement... Enfin je veux dire, il y a quand même... Alors je sais plus du tout c'est lequel, mais où le disciple de Jigsaw qui est révélé à la fin...
C'est le 4. Avec Hoffman.
Ok. Attends, mais je lui donne une après, technique de mise en scène, elle arrive à repérer le film, quoi.
J'ai l'impression qu'elle a passé 8 jours à faire cet article sur la chronologie.
C'est
donc,
pas une impression.
Bref, du coup, au début de Saw 4, la personne qui va se révéler être le disciple de Jigsaw par la suite, il y a un raccord en fondu entre sa tête et la couverture de Time avec la tête de Jigsaw, mais genre après 10 minutes de film, enfin les indices, c'est vraiment un coup dans les côtes établi.
Attention là, je suis désolée, mais la gueule de l'acteur, la façon dont il joue, genre tout crie, je suis pas très très sympa sur son visage, enfin à la fin du 4 quand il se relève et en fait ta, c'était moi. Après ce twist là, pour le coup, je le trouve forcé évidemment, mais plutôt malin, parce que je trouvais ça plus logique que John Kramer ait un complice du côté de la police.
Oui.
Pour l'aider pour que une ancienne droguée voilà.
C'est plus utile quoi.
Oui, voilà.
Mais c'est plus utile quand t'as 17 disciples.
Il y a eu combien de disciples si on compte? Il y a eu donc Amanda, c'est la première que tu découvres dans la saga dans la chronologie.
Dans la saga.
Ouais, je parle de la chronologie de la saga.
Dans la chronologie.
Dans l'ordre de la saga si pour pas te perturber. On voit donc découvre dans le 2 que Amanda est une disciple.
Oui.
Je te laisse continuer, moi je me perds après.
Ensuite,
c'est dans le 4.
Dans le 4, ouais. Ensuite, on découvre que Jill, en fait, depuis le début, elle était quand même au courant de tout ce que se faisait John et tout, et qu'elle a testé Hoffman. Donc, franchement, on peut la compter comme complice. Et ensuite, dans Jigsaw, il y a le Nelson Logan, là, qui apparemment, The Chosen One, l'original et tout ça, qui était là avant tout le monde,
J'ai oublié qui c'est.
C'est le méchant de Jigsaw. Ouais.
Et j'ai oublié qui le... Ah oui, celui qui était avec le truc sur la tête et était épargné par John Kramer dans le premier
piège. Parce que le twist, c'est qu'en fait, tout ce qu'on
voit... C'est pas en même temps. Ça, j'adore. C'est qu'ils se sont dit, on a un twist dans le deuxième, c'est pas en même temps. Dans le troisième, tu sais quoi? C'est pas en même temps. 8 ans plus tard, tu sais quoi? Dans Jigsaw, c'est pas en même temps.
Pareil, à Jigsaw, au début, le premier piège, le mec se réveille même pas.
Et j'ai pas cité Gordon. Attends, j'ai pas cité Gordon. J'avais pas fini. Et du coup, le dernier... qui est en fait un aussi des premiers, qui était Gordon.
Et tout ça a beaucoup de sens. Si, oui, je suis sûr que si on revient dans le passé et qu'on revoit tous les films avec ça en tête, c'est totalement sensé. Et toi, t'allais dire quoi, celui-ci ?
J'allais dire que Jigsaw, tu comprends tout de suite, parce que le premier piège, il y a les 5 mecs là avec leur seau sur la tête, il y en a un qui ne se réveille pas, qui disparaît hors champ.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Comme ça, enfin, je veux dire, t'en as vu 6 avant, 7 avant, tu te dis, bah évidemment que le twist il vient de là. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas rond de suspense.
Oui, puis en plus, par rapport au code de Jigsaw, si quelqu'un meurt sans avoir pu être testé réellement, c'est pas très gentil. Dans la grille de lecture de Jigsaw, c'est
la elle varie la grille, hein, selon s'il est bien luné ou pas.
C'est la fameuse règle de. Du cinéma hollywoodien de si tu meurs en hors champ, t'es pas vraiment mort. Mais alors là, poussé à un niveau.
On sait que tu penses à Fast and Furious 10. Hein. Pense-toi à des films qui sont sortis cette année qui ont un titre.
Peu près tout, hein.
Et ce qui est marrant, c'est que ce truc du twist est devenu un peu une marque de fabrique. Et je me dis qu'arrivé à Saw 10, en fait, il n'y a plus vraiment de twist. C'est quoi le twist de Saw 10
quoi? Bah, il y en a tellement pas qu'ils sont obligés de faire des flashbacks au bout de 20 minutes de film avec Amanda. Et en fait, c'était elle qui avait kidnappé. Alors que, oui, bah merci, on le sait depuis genre 2005.
Mmh. Ouais, la première partie du film est assez marrante en ça qu'elle essaye de te faire passer pour des twists et des
évidences.
En fait, des tournants de scénario hyper classiques. Genre le fait qu'ils comprennent. Qu'il soit au cœur d'une arnaque médicale, t'es en mode, bah oui, enfin, de toute évidence, oui.
Vous avez pitché le film comme ça.
Ça, à la limite, ça me perturbe pas parce que je me dis que t'es avec le héros qui lui découvre le truc, mais le truc de Amanda, je trouve.
On y reviendra.
Oui, le héros de l'histoire. Mais Amanda, je trouve ça ridicule parce qu'en plus, tu n'as pas besoin de le voir et même à la limite, tu t'en fous de savoir à quel moment quelqu'un a tiré le cadavre, à quel moment quelqu'un a juste ouvert la porte. Et le mieux, c'est la scène post-générique de Saw 10 qui te montre Hoffman.
Oui.
Alors qu'en fait, tu sais qu'il était là.
Et on
te
le montre,
genre, révélation. Bah oui, je sais qu'il était là. Sa révélation, c'est quoi de voir la gueule qu'il a 10 ans après? Genre, a-t-il vieilli comme Amanda ou je comprends pas?
J'avoue que cette scène post-générique, j'ai tellement pas compris à quoi elle servait. J'avais l'impression que c'était un petit bonus pour les fans en mode, allez, vous le vouliez. Mais qui veut Hoffman? Enfin,
mais c'est la musique en fait qui tue le truc parce que le fait qu'il y ait cette espèce d'énorme effet de je sais plus quel est le thème à ce moment-là, est-ce que c'est encore le thème? Je pense pas. Je pense que c'est juste un truc un peu spectaculaire. Te dis, mais il joue ça comme si c'était une révélation, ça me tue quoi. C'est Hoffman. Donc...
C'est l'effet classique de franchise hollywoodienne du moment. La révélation, c'est qu'ils ont réussi à le faire venir pour une scène, quoi.
Oui,
enfin,
c'est ça.
C'est tout.
Ouais.
Pour que tu puisses faire c'est comme DiCaprio sur son canapé, là, dans le même.
Mais j'adore, tu sais, au cas où quelqu'un avait un doute sur la grande carrière de cet acteur, est-il encore disponible et intéressé à l'idée de réapparaître dans Saw? Bah, clairement, oui.
Il avait quoi d'ailleurs en plus à part Saw?
Bah, rien. Je pense pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais revu.
Imagine, t'es réalisateur, bon, tu vois Saw, tu te dis pas, il me faut ce mec.
Je pense que lui est dans le top 3 des pires acteurs interprètes.
Pour moi, c'est le pire de la saga. C'est incroyable qu'il y ait autant de films qui sont sur ses épaules. Il a vraiment eu. Enfin, je déteste m'attaquer au jeu des acteurs en règle générale parce que je pense que des fois, c'est plus subtil et tout. Mais là, vraiment, le mec. On dirait il se balade sur le plateau hébété.
Je pense qu'il est pas aidé par le scénario, mais il est pas aidé par lui-même non plus.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il s'aide pas non plus.
Ah ouais. Et ce qui va avec les twists, c'est dont on en parlait un petit peu plus tôt, c'est tous les effets cheapos de la mise en scène. Alors c'est quoi? C'est les accélères, les caméras qui tournent, mais il y a aussi les flashs. Moi, les flashs, vraiment, ça me tue.
Les flashs
lumineux, quoi, vraiment, qui sont censés te dire qu'il se passe des trucs. C'est le truc très années 2000. J'ai l'impression de voir tous les films qui ont été faits par c'est quoi la boîte de prod, Ghost Pictures?
Dark Castle.
Oui, Dark Castle. Ouais. Tous ces trucs un peu naze avec vraiment les effets genre 13 fantômes, tu vois, j'ai l'impression que c'est fait par la même boîte de prod.
La signature des années 2000, ouais.
Ça veut dire que le monteur, à chaque fois, t'as l'impression que genre le public est en train de s'endormir et qu'il se dit oh putain, faut le réveiller ou faut lui rappeler ce qui s'est passé il y a 5 minutes parce que peut-être qu'il est un peu con ou.
C'est vrai que la timeline de montage de ces films doit être un beau bordel hein, parce qu'il y a un nombre de trucs.
Et donc on parlait de la musique qui revient toujours en boucle, mais pour le coup, on peut trouver que c'est un peu ridicule parce qu'elle revient et qu'elle est un peu ridicule, et en même temps, bah, elle revient, elle est marquante, et pour le coup, c'est compliqué de l'oublier. Donc je pense que c'est assez une réussite quand même d'avoir réussi à créer un thème musical dans une saga comme ça. Parmi les choses qui sont les plus mémorables, je me demande combien de gens l'ont mis en sonnerie de téléphone ou de réveil, t'imagines, tu te réveilles avec ça.
c'est vrai que, mais encore une fois, la musique est vraiment très très années 2000. Hein. C'est du sous Requiem for a Dream, Clint Van Zyl.
Qui a composé ça d'ailleurs?
Shai Kluser.
A-t-il fait d'autres choses?
Il a fait quelques autres films d'horreur que je ne connais pas plus que ça, je dois avouer.
J'avoue que je ne me suis pas renseigné sur lui.
L'essentiel de sa carrière aura été donc de remodeler, le réarranger, le même thème pendant 20 ans quand même. Ce qui...
Écoute, il faut tous être, avoir un truc, une réussite dans sa vie. Bah, lui, c'est le thème de Saw, franchement, il y a pire. Et comme on parle de Saw, il faut évidemment parler de c'est quoi le cœur de la saga, c'est Jigsaw. Alors c'est quand même amusant quand tu reviens au début de te dire que Tobin Bell a signé pour un rôle... De rien, genre il
trois répliques.
Ouais, c'est ça. Et il se lève à la fin et il y avait une doublure. Remarque, est-ce que c'était une doublure ou est-ce que c'était lui par terre, vu le peu de moyens qu'ils avaient.
C'était surtout lui par terre parce que James Wan raconte dans le making of qu'il se sentait très désolé d'avoir un acteur qui bon quand même a quand même un certain passif en tant que second couteau dans le cinéma hollywoodien et de lui demander de s'allonger par terre pendant super longtemps toutes les prises.
Ferme ta gueule, bouge pas. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et pire encore, il dit de l'enjamber régulièrement.
Oui,
ils étaient quatre dans une petite chambre avec leur caméra et forcément ils devaient lui rouler dessus quoi.
Non, mais ça me fait trop rire quand tu vois que Tobin Bell et même Shawnee Smith qui joue Amanda ont signé pour des trucs. Je crois qu'en plus elle voulait pas au début, elle aimait pas trop les films d'horreur et tout. C'est le court métrage qui l'a un peu convaincu de se dire mais ils ont signé un ticket d'entrée pour leur carrière quoi. Genre 20 ans après elle est rappelée, 20 ans après il y a un film dans lequel il a jamais été mis autant en avant dans la saga que dans celui-ci, Saw 10. Ça me fait trop rire de se dire que non seulement les personnages n'étaient pas écrits pour devenir ça, mais en plus les acteurs aussi, quand ils ont signé, ils ont dû se dire ouais, allez, vas-y, j'ai une scène dans ce film, why not, ça me fera un peu d'argent. Et en fait, c'est devenu un des rôles les plus emblématiques de ces acteurs et actrices.
Mais même
quoi.
James Wan, quand il en parle, il dit que Jigsaw, John Kramer, c'était tellement anecdotique presque dans le premier Saw par rapport à tous les enjeux qui étaient de voir comment réagissaient deux hommes enfermés, quels étaient leurs échanges et tout, et qu'au final c'est vraiment le public qui a retenu John Kramer, Jigsaw, le tueur en série, et qui s'est vraiment passionné pour ce personnage qui du coup a été ramené.
Ouais, et qu'ils l'ont d'ailleurs principalement sélectionné pour sa voix,
oui,
ouais,
assez caractéristique, qui est devenue aussi une grande composante de la franchise par la suite.
Et donc c'est très drôle de se dire que il s'était tiré une balle dans le pied dès le premier avec cette histoire de cancer. Non, c'est dans le premier qu'on le sait.
Oui, on le sait. Oui. Il est mourant déjà dans le premier. Ouais. Tu le vois à moitié mourant quand il tue un flic. Bizarre cette phrase, mais.
c'est ce qui en fait vraiment un antagoniste dans le sens où c'est un mec qui meurt et qui arrive plein de merde et qui perd complètement les pédales.
Ah oui, c'est clairement le gars qui demande aux gens de dépasser leur trauma alors que lui n'a jamais été capable de dépasser les siens.
Prends ça, Jigsaw. Et les producteurs assument que clairement ils sont vraiment tirés une balle dans le pied en le tuant dans le troisième, et en même temps leur excuse, je la trouve un peu, ils disent en fait on peut pas non plus tirer trop sur la corde parce qu'il a un cancer en phase terminale, du coup il peut pas survivre tant que ça, et en même temps tous les autres se passent tellement en même temps, juste après, avant, que je me dis bah en fait il aurait pu survivre pendant le 4, 5, 6, 7, ça aurait pas été très grave. Donc en le tuant à la fin du 3, tout en ayant clairement en tête qu'ils allaient faire des suites, je me dis mais c'est marrant, qu'est-ce qu'ils imaginaient? Est-ce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient vraiment véritablement continuer la saga avec des flashbacks et tout ça, ou est-ce qu'ils pensaient pouvoir passer le relais à un Hoffman ou à un autre en se disant en fait Jigsaw c'est comme le masque de Scream, en fait Ghostface il existe en tant qu'entité un peu abstraite, peu importe quel humain il y a dessous. Et en fait visiblement le public voulait vraiment John Kramer, même si Hoffman a eu quoi, 3 films au moins vraiment centrés sur lui.
4, 5, 6, 7, 4.
Ouais, pas mal. Hein.
J'ai vraiment du mal à savoir où il voulait aller dès le départ, parce que le 3, ni James Wan, ni Leigh Whannell, ni Boozman ne voulaient revenir. Mais du coup, c'est la mort de Greg Hoffman. Donc pas Mark, oui, Greg Hoffman. Bon, d'ailleurs, évidemment, l'autre a été sûrement appelé Hoffman en hommage, même si je trouve que c'est un hommage
c'est
pas très
hommage,
sympa quand même. Genre, tiens, le pire personnage de la saga, il s'appellera comme toi. Et en plus, un psychopathe, hier. Et au final, du coup, ils se sont dit, bon, après, c'est quand même ce gars, aussi bien dans le cas de James Wan et Leigh Whannell que de Boozman, qui nous a donné notre chance, en fait, qui nous a lancé. Donc, on a envie de faire un dernier film hommage en essayant de clore une trilogie. Et voilà, qui se termine sur la mort de Jigsaw. Donc voilà, vraiment le point final, même si au final on voit que c'était pas si final de que ça, parce qu'il avale la cassette. Enfin, j'ai du mal à savoir comment ils ont imaginé le puzzle, en fait, sans mauvais jeu de mots.
Peut-être qu'ils l'ont pas imaginé, qu'en fait à chaque fois c'était de l'impro, et je disais, bon, bah la dernière fois il était mort, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il est encore là, il y aura des flashbacks.
Et mais
à chaque fois,
on annonce que
Tobin Bell revient.
Lionsgate avait quand même fait avait signé un contrat pour 7 films, donc c'était qu'il y avait bien des suites de prévues, mais James Wan et Leigh Whannell, ils voulaient pas les faire, et au final, le 3 a été fait parce que la mort de Greg Hoffman, et les 4, enfin, j'ai du mal à comprendre en fait la vision d'ensemble du truc. Bon, peut-être qu'évidemment, il n'y a pas de vision d'ensemble.
Je pense qu'à Lionsgate et Twisted, ils voulaient en faire tant que ça fonctionnait, et ils se sont heurté à la décision de Whannell et Wan de pas revenir au scénario, enfin notamment Whannell de pas revenir au scénario, ce qui a porté un grand coup à la franchise, hein, parce que c'est quand même un peu moins malin par la suite.
C'est sûr.
Et d'ailleurs, même jusque dans Spiral, qui est donc le seul film où il n'y a pas techniquement Jigsaw, enfin Tobin Bell, et ben il disait que même jusque après des tests screening, il songeait à faire revenir son personnage. Enfin vraiment, c'est.
Oui, c'est marrant. Ils disent qu'ils ont jamais écrit le scénario avec une scène où il y avait Jigsaw, John Kramer, mais que du début à la fin, ils se posaient la question, qu'ils ont imaginé quelques trucs absolument géniaux, du genre une scène post-générique où il rencontre le méchant, le tueur qui est enfant, qui vient de perdre son père, et il lui donne une poupée. Il voulait aussi peut-être que Tobin Bell apparaisse avec sa voix, parce qu'il fait de la musique à côté, Tobin Bell, avec une chanson de générique. Et il voulait peut-être aussi que le tueur diffuse des messages en réutilisant tous les messages audio des premiers épisodes de la saga et en coupant les mots pour refaire d'autres phrases. Voilà. Donc tu vois, ils se sont vraiment posé des questions pendant des mois, et donc c'est le seul épisode où il n'y a pas John Kramer, je dis pas de conneries, c'est le seul épisode où Tobin Bell n'apparaît pas, il n'y a rien.
Ouais, non, il n'y a rien. Ouais. Je crois même qu'il n'y a même pas la poupée.
Oui, ils ont changé de poupée,
ils ont juste gardé les spirales qu'elle avait sur les joues.
C'est une genre de marionnette, ouais, c'est ça. Ouais. Qui du coup ressemble un peu plus à la source d'inspiration première de la poupée, c'est-à-dire la poupée de Profondo Rosso, tu sais, le genre de marionnette de Argento, ouais.
Et donc, le seul épisode où il n'y a pas Tobin Bell, Jigsaw et John Kramer, c'est le plus pourri, celui qui a coûté cher et n'a pas rapporté d'argent. Bah, alors qu'ils se sont posé la question du début à la fin, est-ce que.
Après, si le film est vraiment pas bien, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas John Kramer dedans.
Il y a beaucoup de problèmes. Mais je trouve ça amusant que son absence sonne quand même le glas sur la médiocrité de la saga. Et comme on parle de Jigsaw, dans Saw 4, en fait, à un moment, donc c'est là que Whannell a dit « je reviens pas », tout en disant que lui et Wan continuaient à superviser la saga, que c'était leur bébé. Ils ont engagé d'autres scénaristes, et en fait, quelqu'un chez Twisted Pictures a lu le scénario de The Collector, qui s'appelait The Midnight Man à l'époque, et a pensé que ça pourrait faire un bon préquel à Saw, qui reviendrait donc sur les origines et les raisons qui ont fait de John Kramer un psychopathe. Et les producteurs ont dit non, mais ont quand même engagé l'équipe de The Midnight Man, The Collector, pour faire le film. Donc c'est marrant, déjà à cette époque, donc on est en 2007, ils pensaient peut-être à faire un préquel, à expliquer qui était John Kramer, ce qui est exactement ce qui est devenu Saw 10.
Oui, mais après c'est aussi ce qui est Saw 4, parce que dans Saw 4... Non, attends, c'est dans Saw 5.
Ah, quand il y a les flashbacks sur...
Ouais, où justement, on comprend pour Jill Tuck.
Oui.
Parce que Jill Tuck, jusqu'ici, on l'avait vu que dans le 3, dans un flashback, enfin un souvenir de John pendant qu'il est en train de crever.
Ah, dans le parc,
là ? Ouais, voilà. Où tu comprends que, bon, en fait, on s'en fout. Tu comprends juste qu'il avait une femme, voilà, point fini. Et dans le 4, du coup, on rencontre Jill et tout ça. Et je crois que c'est dans le 5 ? Oui, c'est ça, parce qu'à la fin du 4, on nous révèle qu'en fait, c'est Hoffman qui est le complice, et c'est dans le 5, du coup, qu'on nous explique l'histoire de John et de Hoffman. Et du coup, c'est comme ça que t'apprends que la fausse couche, et puis après l'accident, et tout ça...
Et que Amanda, dans
la voilà.
Porte,
donc en fait, voilà, c'est dans le 5, véritablement, qu'ils expliquent un peu l'origine story.
Mais ça reste des petits flashbacks, effectivement, sur le passé, versus un film entier préquel, comme Saw 10 est devenu.
J'ai rien compris.
En fait, disons qu'au bout de 3 ou 4 films, ils disaient déjà, est-ce qu'on explique tout le passé de Jigsaw, et ils l'ont fait un peu, ouais. Mais il y avait l'idée d'en faire un truc entier.
Après le 3, qui devait vraiment techniquement conclure un arc autour de Jigsaw, ce duo de scénaristes donc ont fait, comme tu l'as dit, ce qui est devenu par la suite The Collector, dans l'idée de revenir complètement en arrière pour complètement créer le personnage, etc. Et Twisted Pictures, je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient plutôt jouer cette carte sur 14 films, et du coup c'est en fait ce qui leur a permis de prendre la suite de la saga, et je pense qu'ils se sont servis de cette approche pour réfléchir à la façon dont ils mettaient en scène le passé de Jigsaw dans les suites. Donc ça leur a servi de carte de visite, en fait, de carte d'entrée, mais un peu comme finalement il y a eu avec les scénaristes par la suite de Jigsaw, qui avaient une idée cool à la base, et Twisted Pictures et Lionsgate leur ont dit « Ah ouais, on aime plutôt bien, mais en fait on va pas faire ça du tout, mais vous pouvez quand même venir scénariser le film pour nous. » C'est plus ou moins ce qui s'est passé, et c'est un peu le cas à chaque fois. Et je conclurai en disant d'ailleurs que The Collector est bien mieux que ce que Tousseau a produit.
Ah ouais,
franchement, très sympathique.
C'est pas mal, hein. Il y a juste, moi, une scène Je pardonne pas, je trouve que c'est allé trop loin. Il y a une torture de chat, ça je pardonne pas.
Il y a un des meurtres de chat les plus gratinés de l'histoire.
Non, mais c'est en trois étapes, hein. C'est-à-dire qu'il te torture un chat en trois étapes bien distinctes et tout, c'est horrible. Okay. T'as les pauvres cris du chat et tout, non franchement ça j'ai pas aimé. Alors en plus, dans le film, la gamine elle subit pas ça, non.
Et tu retrouves le côté un peu « Maman j'ai raté l'avion » version extrême, que franchement, voilà, dimanche soir avec une bière, c'est parfait. Moi,
pas pour toute la famille.
Voilà, il y a une suite qui s'appelle « The Collection » et qui est relativement regardable également et qui aurait dû mener a priori sur un troisième opus qui s'appelait The Collected, il me semble, mais dont
nous
on a pas entendu
l'inventivité des titres,
mais dont on n'a pas entendu parler depuis quelques temps, même si en 2022 il me semble il y a eu encore une interview qui disait que le projet n'était pas abandonné.
Le comité de défense des chats s'y accroche. Un truc un peu intéressant sur Saw 4 aussi, petite anecdote humoristique, mais vous allez voir qu'on peut rigoler même si ça n'a pas l'air drôle, c'est qu'il voulait engager le chef d'écho de Saw 2, 3 et 4, qui est aussi réal de seconde équipe, pour réaliser Saw 4. Il s'appelle David Hackel. Il a finalement réalisé Saw 5 parce qu'au moment où il a reçu le coup de fil pour réaliser Saw 4, il a appris que sa femme avait un cancer.
Merde.
Mais, alors, on dirait beaucoup quand même le recul de John Kramer. Il dit « Ma femme va très bien, donc y a pas on peut en rigoler ». Mais il le dit en interview d'une manière un peu légère, c'est pour ça que je rigole avec lui. Mais je trouve ça drôle, quoi, vraiment, de dire « Il fait un film sur une saga où tout démarre de « J'ai un tumeur au cerveau » et le mec, il passe à côté de Saw 4 parce que sa femme a un cancer. » Et donc, il a fait le Saw 5 qui est, je pense, pire que le Saw 4, non ? Ou c'est un peu la même merde. En tout cas, les deux réals, enfin le duo Patrick Melton et Marcus Dunstan,
qui devient du coup et le réalisateur de The Collector.
Oui,
c'est lui qui le réalise.
Ça.
Ouais.
Le réal et les deux scénaristes.
Avaient
pitché à cette époque-là une trilogie. Donc en fait, pour revenir à ce que tu disais, Déborah, ils étaient vraiment partis dans la logique de après la première trilogie, on repart pour trois autres qui sont devenus en fait encore plus que ça. Et au final, bah, la saga ne s'est jamais arrêtée, mais ils avaient déjà la projection d'en faire un truc qui ne s'arrêtait pas.
Et ouais, en fait, cette idée de prendre des scénaristes qui, pour la plupart, veulent travailler d'ailleurs sur la saga Saw parce qu'ils sont influencés, ils aiment ça, pour ensuite piquer eux sans piquer leurs idées, c'est un truc qui s'est vraiment pérennisé jusqu'à Jigsaw, donc le film qui est arrivé après les 7 ans de hiatus post Saw chapitre final, où bah, Lionsgate voulait complètement relancer la saga et ils ont reçu des tas et des tas et des tas d'idées, dont une idée qui est qui vient d'un duo de scénaristes qui s'appelle Josh Stolberg et Pete Goldfinger, si je le dis bien, qui est surtout connu auparavant pour avoir bossé sur les remakes de Piranha et de The House of Sorority Row, pardon. Mm-hmm. Voilà, Piranha c'est trop bien, je le replace. Et eux, ils avaient une idée qui est franchement hyper intéressante et qui aurait un peu donné le change de la saga, c'est-à-dire de faire une sorte de gigantesque piège qui se passerait sur une plateforme pétrolière. Et du coup, les personnages seraient dans une sorte de piège à l'intérieur, et quand ils sortiraient, ils se retrouveraient en pleine mer. Ils auraient aucun échappatoire, littéralement. Idée amusante.
Ah ouais, visuellement, ça aurait été cool, en plus, comme décor, plutôt que leur rue de merde avec les commissariats, là.
Exactement. Et du coup, il y aurait eu John Kramer dans l'histoire ?
Ça, on sait rien. Mais le fait est que, dans tous les cas, ils voulaient faire un Saw à l'air libre.
Ouais, ouais.
Ils voulaient plus s'enfermer.
Et
ils expliquent, alors c'est assez marrant, quand ils en parlent en interview, parce que tu sens qu'ils sont encore sous contrat, donc ils n'ont pas trop le droit de dire. Mais d'un autre côté, tu sens qu'ils sont un peu deg, parce qu'ils expliquent que en gros, Lionsgate leur a dit non, c'est trop original, on fait pas ça. Et du coup, ensuite, ils ont proposé plein d'idées et ils les ont tous réfutées les unes après les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent à, voilà, on retourne dans une, c'est quoi, c'est une barn, comme une grange géante, et encore l'énième twist du « En fait, ça se passait à Vang ». Donc, on est passé à côté de quelque chose d'intéressant, d'autant qu'en plus, Jigsaw est quand même réalisé par un duo de cinéastes qui à l'époque était vachement en vogue, à raison selon moi, qui étaient les frères Spierig.
C'est eux qui ont fait Prédestination.
Qui ont réalisé Prédestination, qui est donc un film de SF qui, aussi d'ailleurs un peu dans la catégorie truc de petit malin scénarisé
avec
plein de twists et tout.
Pendant une seconde, j'ai cru qu'on parlait de Prémonition, c'est le film avec Nicolas Cage avec le twist à la fin. J'étais en mode, d'accord. Mais...
C'est un petit peu moins spectaculaire. Il n'y a pas de crash d'avion dans ce film.
Mais Prédestination est plus. Non, alors là, tu confonds. Prémonition, c'est pas ça. C'est le truc par le chef-op de Nolan, je crois, avec Johnny Depp.
Mais non, ça c'est transcendant. Ça. J'ai cru qu'il faisait une blague. Prémonition, c'est Alex Proyas.
Non, Alex Proyas, c'est Prédiction.
Mais c'est quoi Prémonition?
Attends, Prémonition, c'est Nicolas Cage.
C'est quoi Prémonition?
Il y a forcément un film qui s'appelle Prémonition.
Il y a un film qui se finit en sion avec Nicolas Cage.
Intuition de Sam Raimi.
Non, où il peut voir 10 minutes dans le futur et en fait le twist à la fin c'est que tout une vision.
Oui, oui.
C'est quoi ?
Oh, ça a l'air nul, je sais pas ce que c'est.
C'est Nicolas Cage qui finit par
sion. C'est Nicolas Cage ?
Oui. Si, si, oui, oui. C'est next.
Putain, mais ça finit pas par sion.
Ah, le truc de Lita Maori avec Julianne Moore et Jessica Biel.
Jessica Biel, oui, c'est ça.
Ah, c'est ça le twist, je l'ai vu au cinéma à l'époque juste pour Julianne Moore, je m'étais dit plus jamais, c'est nul.
Ok, et du coup, c'est quoi le truc en prémonition ? Ça aussi, c'est un truc de twist.
Prédiction.
Ah, c'est les extraterrestres avec la capsule temporelle et le gosse.
Prédiction, oui. Ça, c'est prédiction. Ça, c'est prédiction. Voilà.
Et prémonition, c'est quoi ?
Et prémonition, je ne sais pas.
Bon,
pas.
Que on dit qu'il y a un film qui s'appelle comme ça. Voilà.
Ok, très bien.
Donc, pour revenir à Dixon.
Ouais. Ouais, donc les Fier Spirit qui ont fait ce film-là qui est très sympathique, qui est mieux que tous les trucs en sion dont on a parlé, et qui aussi, surtout, déjà pour Lionsgate, avait fait deux films, dont Daybreakers, le film de vampire un peu bourrin et assez sympathique, ma foi. Très années 2000 également.
Décidément.
Et eux sont allés sur Jigsaw parce qu'ils trouvaient l'idée marrante, et malheureusement, après ça, ça a un peu freiné leur carrière, j'ai l'impression. Alors que c'est dommage, franchement, c'était sympa ce qu'ils faisaient jusque-là.
Parce que on se dit Jigsaw qui est pas dans certains films, qui est dans certains films. En tout cas, le fait est que les films où il n'y a pas Jigsaw, où ils essayent d'avancer dans la saga, c'est-à-dire Jigsaw et Spiral, sont globalement considérés comme les pires. Donc on se dit, ok, c'est peut-être pas à cause de l'absence de Jigsaw. Le fait est que quand il n'y a pas John Kramer,
on se fait chier.
Voilà. Et d'ailleurs, les scénaristes disent qu'après Jigsaw, ils ont eu beaucoup de retours de fans qui n'étaient pas contents que John Kramer soit pas là, parce que c'est le seul.
Dans Spiral.
Oh là, je confonds tous ces trucs. Et qu'ils cherchaient des idées pour le ramener jusqu'à Saw 10, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que les gens avaient vraiment attaché Saw et l'héritage de Saw à John Kramer lui-même. Et c'est ça qui est intéressant. Je me dis, quand ils ont fait Hoffman, qui devait prendre le relais officiellement, qui est devenu vraiment le successeur absolu, qui était au premier plan, qui vraiment était le. Quasiment le héros, l'anti-héros, mais il était au centre de l'équation. C'est-à-dire qu'à la fin, il gagne quand même régulièrement de certains films jusqu'à être piégé.
Oui,
il y a des films qui se terminent sur sa victoire. Est-ce qu'ils pensaient qu'après, ils allaient pouvoir refaire un passage de relais avec un autre prétendant ?
Je sais absolument pas s'il y avait une suite qui était prévue de Jigsaw avec le Nelson Morgan, là, qui est l'apprenti, donc du coup, qui est toujours dans la nature parce qu'il a jamais été arrêté.
Et qui reviendra probablement.
Bah, tant mieux, il a pris sa petite retraite sabbatique.
Mais c'est vrai qu'il a eu un run assez court.
Ouais, je sais pas, parce que il me semble que le genre de geste de fanboy de Chris Rock de initier Spiral, si je ne m'abuse, est arrivé avant qu'il sorte Jigsaw, si je dis pas de bêtises.
Non. Je crois qu'à cette époque-là, ils avaient fait Jigsaw et ils cherchaient des idées depuis un an ou deux, qui avaient plein d'idées balancées.
C'est ça, ouais.
Personne n'était content chez Lionsgate, il n'y avait rien qui était validé. Ils ont fini par trouver une idée et qu'ils ont présentée comme 100% John Kramer, donc qui était peut-être un Saw 10. Et là, Chris Rock est arrivé.
Okay, j'ai dû confondre avec un autre film de la saga.
Mais c'est ça,
ils étaient déjà à cette époque dans l'impasse de « il faut ramener John Kramer, qu'est-ce qu'on fait ?» Ah ben on fait le contraire absolu. Et Lionsgate a dit « allez-y, faites un film quasiment indépendant » qu'à l'époque, ils ont présenté même pas comme Saw 9. Ils se sont dit « après Spiral, on pourra faire Saw 9. Moi, il se trouve qu'ils ont fait Saw 10, considérant donc que Spiral est Saw numéro 9.
Ils ont essayé de faire une 10 Cloverfield Lane,
ouais.
comme beaucoup avant eux.
Avec succès. Mais je pensais que l'intrigue de Saw 10, donc John Kramer qui va tester un traitement expérimental qui en fait est une escroquerie, du coup il tue tout le monde, c'était vraiment genre sorti du chapeau. Et c'est en me refaisant les films, dont Saw 6. Donc, une des victimes, c'est l'ancien assureur de John Kramer qui n'a pas voulu l'assurer pour un traitement expérimental par un médecin norvégien.
Donc, tout était préparé.
Mais vraiment, comme on se disait, j'imagine vraiment les gars qui se refont tous les films. Et puis, dès qu'il y a un petit angle mort, mais aussi infime soit-il, ils sont « Oh là là, angle mort, ça, on peut étendre
sur trois
films. »
À un moment, il a dit qu'il aimait le saumon. C'est parti.
Non, mais c'est pour ça qu'on se dit que s'ils veulent vraiment relancer le truc, mais il faudrait qu'ils le fassent sans John Kramer, ils pourraient exploiter plein d'angles morts, genre qu'est-ce qui est devenu Gordon entre Saw 1 et Saw quoi ? Jigsaw ? Il revient dans lequel ?
De quoi ?
Laurence Gordon, il revient
dans le 7.
Dans le 7. Et après, on n'a jamais entendu
c'est
parler
Saw 3D,
de
ça.
Oui.
Ok, ça commence à devenir compliqué.
Ouais, ou même, tu sais, on en rigolait la dernière fois, mais genre la gamine dans Saw 4, qui était la fille de Jeff Ellin, qu'est-ce qu'elle devient et tout.
Et c'est toi qui disais, Déborah, qui sont les deux personnes avec Laurence Gordon quand ils vont prendre Hoffman à la fin de Saw 3D ?
Ça, j'ai revu les films vraiment avec attention, il n'y a pas la réponse dedans, mais j'ai trouvé plein d'articles qui disent que dans les bonus DVD, il y a les producteurs ou les scénaristes, je sais plus, qui expliquent qu'en fait, c'est Brad et Ryan. En fait, tu sais, les deux gars qui sont dans le piège en plein air, dans Saw 7. Et qui
avec
finissent,
la meuf, là ?
Oui, et qui finissent par s'en sortir. Apparemment, selon une des théories, déjà, quand tu fais des théories sur ton propre film, il y a vraiment un problème, bah, ce serait ces deux gars-là. Ou en tout cas, ce serait en fait des gars du groupe de parole de survivants qui
avaient... Les producteurs et scénaristes ont été sur Reddit et se sont dit « Oh putain, ça, ça marche, on va la dire en interview
!» Parce que vraiment, quand j'ai vu le film, à la fin, j'étais en mode... Donc, ok, donc imaginons, aussi tiré par les cheveux que ce soit, genre un des deux autres gars, c'est le Nelson, Nelson Logan de Jigsaw qui n'existait pas encore, mais bon, passons. Qui est l'autre personne?
Oui, plus personne n'est vivant en ce moment-là.
Mais non, genre tout le monde est mort. Donc
moi, je pense que c'est l'enfant de Saudi, celui qui est grand, qui est derrière un masque, et c'est lui.
Je pense qu'il a payé quelqu'un, comme il a payé Obi dans le 2 pour kidnapper les gens.
Après, Gordon, il aurait pu techniquement avoir une plus grande présence, car à l'origine, il le voulait pour Saucisse, je ne dis pas de bêtises, mais l'acteur n'était pas disponible. Et surtout, Saucette, à la base, devait être en deux parties.
Ah bon?
Et oui, il devait y avoir en fait 8 sauts classique plus après ceux qu'ils allaient faire ensuite et dans lesquels ils auraient développé plus son personnage parce que dans Saucette c'est vraiment il débarque au début et en fait à la fin c'était lui quoi.
Ouais, puis en plus c'était assez cramé quoi, il arrive, il parle comme un méchant, il est super glu, tu sais, au groupe de parole là quand c'est il ridicule. Applaudit t'es en mode ouais mais c'est caricatural, enfin déjà comment t'as viré méchant, enfin on t'a pas vu pendant 6 films, t'as quand même un putain de syndrome de Stockholm.
L'acteur dit lui-même que c'est son interprétation du personnage hein, qu'il a le syndrome de Stockholm.
Mais l'acteur est en conflit, il a fait un procès à Lionsgate ou en tout cas à Twisted Pictures et Evolution, donc la boîte derrière, parce qu'il disait qu'il devait toucher plus de pourcentage sur la recette du premier. Ils ont géré ça à l'amiable à la même époque où il est revenu dans ce film. Donc je pense qu'ils ont dû faire un deal, genre tu reviens pour 2 scènes, on te fait un salaire, tu viens avec ta canne, tu fais ce que tu veux, Rolly, de toute façon tout le monde joue comme des merdes, donc tu seras jamais pire que les autres. Et voilà, allez, on y va.
C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, ils ont scindé, enfin ils ont, non, ils n'ont pas scindé, au contraire, ils ont soudé les deux parties de Saw 7 quand ils ont vu les résultats au box-office de Saw 6, oh là qui là. Était trop bas pour eux, alors que bon, c'est le seul opus de la franchise, à part Spiral du coup maintenant, à être passé en dessous des 100 millions de dollars de recettes. Mais bon, vu les budgets, hein, oui. Encore une fois, c'était très honnête. Mais je pense que ça prouve surtout, un peu comme le cas de la nonne dont on avait parlé la dernière fois, que le budget promo pour ces trucs doit être genre 5 fois ce que ça doit être le budget de production, vu qu'on entend parler en long, en large et en travers. Et que peut-être qu'ils n'ont pas fait une si grosse marche sur le 6. Du coup, ils se sont dit, on va tempérer un peu. Mais bon, après, paradoxalement, le 7 a cartonné. Donc je crois qu'il a fait 140 millions, un truc
après,
comme ça.
Ouais, il était vendu comme le final
le truc final, oui. Mais après, en fait, après, il y a une autre composante, mais j'en parlerai plus tard, qui est très intéressante, je trouve.
Mais du coup, je comprends mieux, genre, pourquoi le dernier saut, enfin, saut 7, il est aussi juste apocalyptique au niveau de la narration, parce qu'il y a des trucs, tout simplement, qui n'étaient pas censés se passer dans ce film, parce que tu te dis, bon, Mark Hoffman, il est quand même, genre, poursuivi par le FBI et tous les keufs des États-Unis, mais il a le temps, quand même, de monter des jeux avec les skinheads, là, qui est quand même assez sophistiqué, hein. Enfin, il a dû mettre du temps à mettre ça en place, plus le jeu en plein air.
Alors ça, mais ce piège, c'est quelque chose.
Genre, c'était quand même beaucoup d'organisation à mettre en place, alors que genre, t'es l'homme le plus recherché des États-Unis. Fin...
Mais ce qui est drôle, c'est qu'on commence avec Jigsaw dans le premier, qui est quand même juste une ombre et un truc très, très peu présent à l'écran. Aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve avec Jigsaw qui est au cœur d'un film, qui est au premier plan, qui est vraiment l'antagoniste héroïque.
L'antagoniste héroïque.
Ouais.
Notion intéressante.
Ah non, mais on peut en parler, c'est ça qui vous gêne, vous, dans le film. Quand on est sorti de la projection, je sais que sur le chemin, on a discuté de ça, et vous, ce qui vous dérange, c'est justement ce qui est devenu Jigsaw. Donc c'est à la fois l'argument qui fait revenir les gens en salle, comme on le disait, puisqu'ils ont essayé un peu de s'en priver, de s'en séparer, petit à petit de l'éjecter jusqu'à officiellement ne plus l'avoir dans Spiral, qui a été donc le pire score, peu importe pour la raison pour laquelle c'est de la merde. Et aujourd'hui, il revient en premier plan sous les projecteurs, le film est complètement construit autour de lui, ce qui est peut-être ce que les gens veulent. Et le score à box-office, c'est plutôt pas mal, parce qu'il approche des 100 millions tranquillement.
Oui, bien sûr. Bah,
donc,
bien sûr,
c'est, ouais. C'est dans les clous. Mais quoi ? Même si ?
Je comprends pas. Enfin, je veux dire, ça se passe 17 ans après la mort du personnage. Tobin Bell, il a 80 ans. 81 même.
Après, je trouve que c'est pas trop gênant sur lui. C'est plutôt sur Amanda Jenny Smith où c'est gênant, parce que lui, il a un cancer. Donc, tu peux imaginer que sa sale gueule vient de là. Tu vois,
après, dans le village, il allait un peu mieux.
Il y a quand même moins une sale gueule que son cadavre dans le 4. Hein, ce qui est quand même.
Mais c'est ça, parce que quand tu le vois dans le 2, tu dis oui, bah oui, il est déjà un peu affaibli, parce que l'acteur était déjà vieux, mais là, c'est vraiment un vieillard.
Une suspension d'incrédulité. Moi, ce qui me dérange, c'est la perruque de Amanda, qui était déjà une coupe de cheveux de merde dans le 2.
Une perruque ?
Ah bah la coupe de cheveux qu'elle a, c'est pas possible. Déjà dans Saw 2, je me disais mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait la pauvre, c'est ça la torture.
Enfin, vraiment, j'ai pas envie d'entrer sur ce terrain-là, mais enfin quand tu vois juste le personnage, enfin c'est une actrice qui a 54 ans qu'on essaie de faire passer pour une meuf de 32 ans.
Là franchement, croire, quoi,
mais le pire c'est la justification parce que tu sais on en parlait, j'avais pas vu la bande annonce et tout et je me disais mais c'est obligé, va y avoir du de-aging, va y avoir un rajeunissement numérique, enfin. Tu peux pas faire passer une pilule aussi grosse et ça a effectivement été une option qui a été envisagée.
Ah ouais, ouais.
Sauf que le réel,
c'est cher quand même.
Sauf que le réel a dit que le problème c'était que la plupart des films qui font ça, ça installe un petit sentiment de décalage en fait, de malaise et que vu qu'il y avait énormément de gros plans sur Tobin Bell et Shawnee Smith en train de se parler, que c'était des moments émotionnels, et bah si on mettait ce filtre numérique par-dessus, ça allait tout casser.
Le bullshit donc, promotionnel, quoi. Non,
mais... Ils ont laissé ça comme ça, le budget il était beaucoup moins cher.
Bah ouais, c'est ça, le de-aging d'Amanda. En plus, tu dis, pourquoi ils sont fait chier à ramener Amanda? En fait, c'est juste pour que Jigsaw puisse parler, sinon il est tout seul. Mais en fait, ça n'a aucun sens réel.
À la rigueur, lui faire kidnapper des gens, mais tu lui laisses son masque de cochon, je sais pas, n'importe quoi.
En plus, elle est même pas testée. Moi, je pensais qu'elle allait être retestée avec la junkie qui est dans le jeu, et en fait pas du tout, elle est juste là à côté en assistante pour parler et pour chialer à la fin, et que tu dis en fait elle chiale mais elle sait que c'est fait
elle
exprès.
Elle devait être testée à la base.
Non pas testée comme ça, moi je pensais qu'elle allait être testée sur sa fidélité à John Kramer.
Parce que tu sais il y a la personnage de la jeune droguée qui est en fait son personnage miroir.
Ils insistent beaucoup dessus dans les regards et tout, mais c'est ok, c'est un pré-test pour savoir à quel point il peut avoir foi en elle.
La façon dont c'est abordé puis mis sous le tapis représente beaucoup de choses dans la façon dont la saga traite les sujets auxquels elle s'attaque.
Non, mais qu'est-ce qui vous dérange alors dans le Jigsaw, dans le personnage de Jigsaw dans Saw 10?
C'était inévitable de dire on va passer énormément de temps avec ce personnage auquel le public est déjà attaché. C'était genre juste la porte ouverte pour l'humaniser bien plus qu'il ne le faut. Enfin, il ne faut pas humaniser Jigsaw, tu ne peux pas humaniser un tel personnage et juste justifier véritablement ses actes et en faire une espèce d'anti-héros qui va braver le système, qui va rééquilibrer un monde injuste et tout, alors que non, c'est un énorme psychopathe qui, encore une fois, n'a jamais su dépasser ses traumas et qui, un jour, s'est dit je vais obliger les gens à le faire. Enfin bref, c'est juste une personne qui a un code moral qui est complètement dérangé et bancal, et c'est pas grave, c'est ce qui en fait un personnage vraiment fascinant. Et là, on veut vraiment nous faire croire qu'au final, il y a un bien fondé dans les actions de Jigsaw, parce que regardez le monde tel qu'il est, y a des personnages encore plus horribles, il y a des personnages qui tuent avec leurs faux espoirs. Genre vraiment quand
ils allaient ressortir cette réplique incroyable.
Non mais je veux dire, quand t'as une réplique qui est balancée comme ça, de façon tellement romanesque, presque théâtrale et tout ça.
Juste parce que elle arrive surtout à point nommé, parce que c'est juste après qu'il est quand même forcé à un mec à trifouiller son propre cerveau, quoi. Et après ça, il dit oui, mais tu comprends, ils tuent avec leurs faux espoirs.
Attends, mais non, mais Jigsaw, c'est pas un justicier sanglant, enfin, c'est pas, non, c'est pas un Batman, enfin, il faut se calmer. Et le coup de, vraiment, parce que l'enfant, le fait de faire de Jigsaw un sauveur d'enfants et qu'il y ait des personnes pour te montrer que vraiment, elles sont plus méchantes que Jigsaw, qui torture un enfant, d'une façon en plus... quand même assez hardcore. Non, je trouve ça juste ridicule. Genre, essayer de créer un contraste entre Jigsaw et des personnages qui seraient encore plus méchants pour essayer de faire de Jigsaw un anti-héros au bout du 10e film, où on a vu que son code moral, c'était n'importe quoi. Genre, juste, je trouve ça, mais bête. Même pas bête, en fait, c'est abject.
Toi aussi, tu penses ça, Mathieu?
Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment un glissement entre l'antagoniste et le protagoniste par rapport à Jigsaw, mais qui est... je trouve assez fascinante, en fait, si tu prends un peu de recul, et qui rentre dans ce que je disais sur le fait que ce soit vraiment une saga d'exploitation à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un genre de glissement moral assumé qui ne dépareillerait vraiment pas dans vraiment l'exploitation la plus crasse des années 70-80, où plus personne se pose de questions, et le sujet est hyper... en fait, le sujet est hyper large et pourrait s'appliquer à tout un pan du cinéma d'horreur, mais je pense que Saw est la franchise qui permet de l'aborder de la façon la plus intéressante.
Ok. Moi, c'est marrant, ça me dérange pas, alors peut-être que j'ai un problème psychologique et moral, mais je trouve que la boussole de la saga est tellement cassée depuis le début, je trouve ça intéressant de nous mettre dans la position ultime de « je sais ce qui va devenir, il est au début de ça », et on me met face à la situation grotesque de lui qui dit mais les faux espoirs qui tuent aussi, et tu dis mais c'est tellement extrême et grotesque que c'est amusant qu'un film essaye de te faire passer ça pour quelqu'un de gentil, et qu'il te met dans cette position en sortant de te dire mais c'est une blague en fait, le mec il croit tellement, le film essaye de m'y faire croire, mais en fait ils sont tous à jeter à la poubelle et lui est clairement pas mieux que les autres.
Non, mais parce que si tu reviens au tout premier film...
Non, mais attends, par contre, Déborah, parce que là, je vois l'heure, ça fait déjà super longtemps qu'on parle de cette saga de merde. Je propose qu'on en reparle la semaine prochaine, parce que je pensais pas qu'on allait arriver sur le débat de la morale de John Kramer et Jigsaw. Je pensais qu'on allait parler de pièges, d'hémoglobine et de femmes nues dans un frigo qui sont tuées. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que depuis le début, on parle de cette saga qui est partie d'un petit truc de film de potes, film de fin d'école. C'est devenu un énorme phénomène, donc on dirait une suite d'accidents sans fin. Des trucs qui étaient des accidents sont devenus un peu des modèles. On parlait de la manière de faire les films, les codes un peu cheapos de « on n'a pas d'argent ». C'est devenu, en fait, le style, l'identité. Et Jigsaw, qui était au début littéralement un faux cadavre et un figurant sur lequel on devait marcher pour passer de l'autre côté de la pièce dans ce mini-décor de film sans argent, est devenu la star, la superstar, au point d'en faire maintenant le héros anti-héros, le protagoniste antagoniste, peu importe. Donc on en reparle la semaine prochaine, on refera une réunion dessus pour continuer et finir tout ça. Et j'ai l'impression de le dire pour la 18e fois, mais ça fera un super podcast, parce que vraiment, peu importe le sujet sur lequel on nous lance, on en parle pendant des heures, même Saw, en même temps 10 films, je suis pas étonné. Donc si un jour on lance un podcast, on invitera les gens à nous suivre, partager, mettre une bonne note et revenir chaque semaine, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire autant de podcasts que d'articles de merde sur écran large. Donc j'espère qu'un jour, on va enfin se lancer.
Et que de films Saw.
Plus que... Bah non, plus j'espère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.